Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Anaïs Sauty de Chalon.
Le vieillissement dans le monde, c'est rayonnement du CNRS qui nous amène à traiter cette question dans cet éclairage. Vous savez que Canal Académie s'intéresse beaucoup à des questions d'ordre géopolitique, d'ordre ce qui relève effectivement de l'intérêt commun. C'est aussi l'un des axes de réflexion de l'Académie. Ce n'est pas seulement la langue française ou les questions liées à la culture, c'est aussi notre devenir commun. Or, la démographie, c'est évidemment ce qui sous-tend notre devenir commun, puisque c'est par elle que va se lire l'avenir d'une population. Alors, pourquoi en parle-t-on ? Tout simplement parce que, justement, Rayonnement du CNRS publie un rapport sur le vieillissement dans le monde, avec un dessin qui est d'ailleurs assez amusant et qui va être commenté par nos deux invités. Jacques Dupaquier, bonjour.
Bonjour.
Membre de l'Institut, vous avez créé le laboratoire de démographie historique de l'École des études en sciences sociales.
Ça fait une trentaine d'années.
Il y a une trentaine d'années, mais vous avez une formation d'historien, mais d'historien de la démographie en particulier. Vous êtes spécialisé sur ces questions-là.
Au début, j'étais plutôt historien de l'économie. Et au moment où je me suis remis à la recherche scientifique, j'avais la quarantaine, voilà que démarrait une nouvelle technique, la démographie historique, inventée par Louis Henry. Et j'en ai été le premier secrétaire général, puis le président. Et au bout d'un certain temps, je me suis spécialisé plutôt dans l'actualité démographique et aussi, vous le savez, dans la protection de l'environnement.
Vous êtes également un passionné du vaccin français, ça pouvait être dit
voilà,
aussi, sous
voilà.
L'angle culturel.
J'y habite et ça fait 39 ans que je milite pour la protection des paysages et du patrimoine.
Alain Parent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes démographe, chercheur à l'INED, conseiller scientifique de Futurible International. Un mot là-dessus justement, Futurible International ?
Futurible, c'est la contraction de futur est possible et pas de futur est horrible. Même si c'est plutôt les mises en garde que nous faisons au sein de ce groupe et dans la revue Futurible sont plutôt des mises en garde contre des futurs qui pourraient être horribles. Mais c'est une posture, je qualifierais, de catastrophisme éclairé. C'est-à-dire qu'on tient le pire pour certains, ce qui est le meilleur moyen d'essayer de faire en sorte qu'il ne se réalise pas.
Il ne faut jamais écarter la pire des choses.
Voilà, il faut jamais écarter la pire des choses, qui pourrait être d'ailleurs le comble de l'optimisme, à mon avis. Posture du catastrophisme éclairé.
Ce dessin qui illustre ce rapport, un rapport de grosso modo 70 pages, accessible à tout public, hein, ce n'est pas un rapport écrit dans un
sur
langage
incompréhensible. Sur le vieillissement même, il y en a une cinquantaine de pages.
Voilà, et
parce
avec des dessins,
de
des dessins, des tableaux, tout cela rendu parfaitement accessible. Alors on voit un malheureux en fauteuil roulant qui se précipite apparemment dans un abîme. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, oui. Avec le drapeau européen.
Voilà, parce que cette image est sortie d'une couverture de Population et Avenir au moment où on parlait de la jeune Europe, de l'Europe qui rajeunissait. Et il a semblé drôle de représenter l'Europe sur son fauteuil roulant qui est en train de dévaler et qui s'en rend pas compte et qui crie « tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Et il y a encore des gens aujourd'hui qui nous disent « tout va bien », n'est-ce pas ? Et qui refusent de regarder le vieillissement en face et même d'en parler.
Par aveuglement ?
Oh, par idéologie.
Par idéologie. Vous partagez ce point de vue, Alain Parent ?
Moi, je dirais par facilité, mais c'est pour parodier ça, je dirais que le vieillissement démographique, c'est les infortunes au pluriel, parce que pendant très longtemps, on l'a rendu responsable, pendant très longtemps, c'est-à-dire dans les années 80, on l'a rendu responsable de tous nos maux, alors qu'il n'y était absolument pour rien. Et puis, dans la foulée, on a, au contraire, cherché à l'évincer, alors que de plus en plus, il devenait responsable de pas mal de questions, sinon de problèmes en devenir.
Là, c'est un paradoxe hein, quand même.
Oui,
effectivement, dans les années 80, déjà, on en parlait beaucoup.
Alors que le vieillissement, on sortait d'une période en France de 30 années de baby-boom, pratiquement, des années 1946-1974, des générations assez nombreuses, à peu près 850 000 en moyenne chaque année, de nouveau-nés. Et on avait tendance à noircir la question, notamment en termes de protection sociale, c'est le vieillissement qui est responsable, alors que la principale cause, c'était une cause économique. On était entré dans la crise, il y avait moins de recettes de cotisations, notamment, et d'impôts, et plus de débours au titre du chômage, mais c'était le vieillissement qu'on mettait en avant. Et puis, tournant des années 80-90, on a oublié cet aspect-là, on a évacué le phénomène, alors qu'on se rapprochait justement d'une échéance que d'aucuns ont appelé le choc démographique, qui est une l'avance en âge simplement des générations très nombreuses du baby boom qui sont pas remplacées nombre pour nombre par des générations plus jeunes.
Ce rapport, c'est né d'une prise de conscience ou vous comptez susciter la prise de conscience, Jacques Dupaquier?
Non, c'est une commande du CNRS sur un sujet qui semblait nécessaire à traiter. Le vieillissement est un processus lent, c'est un processus irrésistible, c'est un processus aussi inodore. Enfin, on ne le voit pas arriver, ça n'est pas une catastrophe comme le sida ou la famine en Afrique, c'est une dégradation progressive de la situation qui n'a d'analogue dans le fond que le changement climatique. Et donc, on m'a demandé de faire un recueil de documents. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ce n'est pas pour m'exprimer moi-même, mais j'ai voulu réunir des documents. Nous avons donc pris trois parties. Qu'est-ce que le vieillissement, ses causes, la géographie du vieillissement, puisque je ne suis pas historien, je suis aussi un peu géographe, et puis les conséquences du vieillissement que connaît très bien notre ami Alain Parent.
Alors on va y venir, mais répondez à ma question. Est-ce qu'il y a une prise de conscience sur cette question? Est-ce que vous sentez que les choses évoluent un peu? Puisqu'Alain Parent nous disait que dans les années 80, on en parlait beaucoup. Puis au moment où la question devenait finalement vitale, blackout, si je puis me permettre cette formule anglaise sur cette antenne académique. Et maintenant que la question semble revenir, est-ce que vous, dans vos contacts avec les milieux bien informés, on se dit, bah, le vieillissement, il faudrait peut-être en parler, il faudrait peut-être y revenir?
Absolument. Au moment où Alfred Sauvy a lancé la notion du vieillissement et tiré la sonnette d'alarme, la France était en pleine dénatalité, la proportion de personnes âgées était la plus élevée du monde. Et puis, entre-temps, à la libération, il s'est produit le bébé-boom qui a amené un rajeunissement relatif et qui a éloigné les échéances. Alors aujourd'hui, les gens pensent au vieillissement, surtout en termes de retraite. On s'aperçoit que cette année, par exemple, toute la génération des enfants du bébé-boom a passé l'âge fatidique des 60 ans. Là où il y avait 600 000 personnes qui, chaque année, atteignaient le 60e anniversaire, il y en a désormais, chaque année, 80 000. Tout le monde s'inquiète des retraites. Est-ce que les retraites vont être payées? Mais ce n'est pas seulement le problème
80 000,
des
800 000, vous voulez dire?
800 000.
800 000.
Oui. 800 000 personnes qui atteignent...
200 000 de plus.
200 000 de plus. Qu'avant. Donc, en réalité, c'est sous l'angle du problème des retraites, surtout, que la prise de conscience du vieillissement a progressé ces dernières années. Mais il y a, en particulier, sur le plan de la santé, d'autres conséquences tout à fait redoutable, dont Alain Parent nous parlera.
Alain Parent, est-ce qu'on peut se hasarder à une définition du vieillissement ou est-ce absurde comme question?
Oui, alors, simplement dans la foulée de ce qui a été dit précédemment, moi je voudrais quand même dire que on commence à réagir effectivement parce qu'il y a la question des retraites, mais juste pour les auditeurs, on a quand même réformé les retraites dans la fonction publique en 2003. La première génération nombreuse du baby-boom, elle est née en 1946. 850 000 nouveau-nés, quant aux 650 000 en 1945, donc d'un seul coup 30% de plus. Avec le mécanisme des pré-retraites, on a avancé ce choc démographique, on l'a dilué, mais dans les années juste avant. Autrement dit, quand on prend la réforme des retraites de la fonction publique en 2003, on est dans le mur. On ne peut pas le faire plus tard. Donc dire que
aurait fallu le faire à partir de quelle date?
Le rapport prospective personnes âgées du 8e plan qui a été rédigé sous la responsabilité de Robert Lyon en 1980, qui est devenu Robert Lyon directeur de cabinet de Monroy, préconisait de ne plus raisonner sur un âge de la retraite, mais de raisonner sur une durée d'affiliation. Et comme à l'époque, il y avait des gens qui avaient commencé à travailler très tôt, on préconisait d'élever l'âge de la retraite, ou le nombre d'annuités nécessaires, à 40 ou 42 annuités. C'est à peu près ce qui a été décidé en 2003. Mais c'était en 80 que c'était écrit. Et Robert Lyon est devenu directeur de cabinet de Monroy. Il n'a jamais pu convaincre son premier ministre de l'époque qu'il ne fallait pas raisonner sur un âge de la retraite, mais du raisonner sur une durée d'affiliation. Alors, il est vrai qu'à l'époque, on était, souvenez-vous, dans « il faut abaisser l'âge de la retraite à 60 ans ». C'était une promesse vieille de 40 ans.
On était à l'inverse de ce qu'il convenait de,
alors,
de faire.
On était à la veille 1982, quand on a baissé l'âge de la retraite. Donc en 1981, on est pratiquement à la veille. On est à la veille de commettre quelque chose qui est peut-être la plus magnifique reculade sociale du XXe siècle, qui nous a été présentée comme la plus grande conquête du vieillissement, à savoir l'abaissement de l'âge de la retraite. Simplement, il fallait tenir une promesse vieille d'à peu près 40 ans. On peut le dire autrement, l'ère était au respect louable des promesses contestables. Simplement, on a hypothéqué fortement le futur.
Vous dites carrément, c'est l'une des reculades.
Ah oui, c'est une des plus belles reculades du XXe siècle. Regardez, on ne revient pas sur l'âge de la retraite. Il est toujours officiellement de 60 ans. Les générations qui entrent sur le marché du travail entrent de plus en plus tardivement. Si, en plus, on leur demande de travailler plus longtemps, de cotiser plus longtemps, 40 annuités. Elles commencent, mettons, aujourd'hui à 22, 23 ans, 24 ans, voire plus. Comme on est en France, dans un pays très jésuite, on allonge la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier de la retraite à temps plein. On va l'imposer à des générations qui entrent de plus en plus tardivement sur le marché du travail. Tout ça en réalisant la quadrature du cercle qui consiste à ne pas revenir officiellement sur l'âge de la retraite. Bon, alors ça, c'est la retraite, mais Jacques Dupaquier l'a clairement dit. La question fondamentale, c'est sur, me semble-t-il, la question de la santé. L'impact sur la santé, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Michel Foucault qui disait on est face à un débat scandaleux. Parce qu'il s'agit de mettre en adéquation une demande de santé qui est infinie et une offre, une possibilité de la traiter qui, elle, est très limitée. Donc, et ça, indépendamment du fait qu'on met dans la santé de plus en plus de choses, il va y avoir des débours de plus en plus importants liés au vieillissement.
Et là, on imagine bien.
On est sur des aspects économiques, il y a d'autres aspects dont on parlera.
On imagine bien que la question du vieillissement est tout à fait cruciale pour tous les décideurs de savoir exactement où on en est. Alors justement, je reviens à ma question. Avant de revenir aux conséquences du vieillissement, sur cette définition, est-ce que pour le chercheur au CNRS, le chercheur à l'INED, est-ce qu'il y a une définition formelle du vieillissement de la population ? Parce que tout le monde vieillit en ce moment.
La réponse est oui. La réponse est oui depuis très longtemps. Le vieillissement démographique, autrement dit pour les démographes, il y a une population vieillie lorsque la proportion de personnes âgées augmente. Alors c'est un peu une réponse de Gascon que je suis.
Augmente par rapport à quoi ? Par rapport à l'ensemble ?
Augmente dans le total.
En pourcentage donc ?
Oui, en proportion, exprimé en pourcentage.
Il faut
Par exemple, la proportion de 60 ans et plus, ou plus, on est à 20%, un peu plus de 20% de personnes âgées de 60 ans ou plus. On était en régime démographique naturel, je veux dire, là où il n'y a pas de contrôle de l'individu, ni de la population, ni sur la fécondité, ni sur la mortalité. On est à quelques 5-6% de personnes âgées de 60 ans ou plus. Mais c'est une réponse de Gascon, pourquoi ? Parce que ça va dépendre. Qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée ? Si je m'intéresse à la question de la retraite, je vais avoir tendance à dire c'est la population âgée de 60 ans ou plus, parce que 60 ans, ça veut dire quelque chose pour la retraite. Par contre, si je m'intéresse à la question de la dépendance du grand âge, ou à la question de la santé et de la montée des besoins de la santé pour les populations âgées, je vais plutôt prendre 80 ou 85 ans ou plus comme limite. Pourquoi ? Parce que l'âge moyen d'entrer en institution aujourd'hui en France, c'est entre 80 et 85 ans, plutôt, voire 83, 84 ans. Donc, ça va dépendre de la question. Par contre, paradoxalement, si je suis quelqu'un du marketing, je vais dire, on va parler des seniors, et les gens du marketing qui veulent à tout prix nous rajeunir, ils ont plutôt tendance à abaisser l'âge auquel on commence à être vieux, puisqu'on entre dans leur catégorie des seniors à 60 ans, à 50 ans. Donc 50 ans, si la proportion est... Dans ce cas-là, le vieillissement, il est d'autant plus important qu'on abaisse le seuil, on l'a bien compris. Ceci dit, les gens de la publicité sont pas, enfin, le public et d'autres sont pas les, c'est pas le seul message qu'ils veulent nous délivrer, parce que quelqu'un qui est encore un travailleur vieillissant est usé, fatigué, et du jour où il passe à la retraite, c'est quelqu'un de très dynamique qui peut s'occuper de ses grands-parents dépendants, de la famille, voyager, faire tourner l'économie. Donc,
mais ça signifie que de 50 ans à 85 ans, l'INED n'a pas une définition liée à l'âge.
On va pas parler d'INED, on va parler simplement des démographes. En démographie, ce sont les personnes âgées. Et peu importe le seuil, pourvu qu'il soit suffisamment élevé. Voilà. Parce que là, ça veut dire que le sommet de la pyramide des âges, il commence à être très gonflé. Si vous voulez visualiser très facilement le phénomène du vieillissement démographique, vous superposez deux pyramides des âges, soit de deux pays différents à une même époque, soit d'une même population à deux époques différentes. Il suffit de ramener à un même effectif total. Vous ramenez à 1000 personnes et puis vous voyez comment se répartissent ces individus selon l'âge.
Jacques Dupaquier.
Oui, moi je préconise de distinguer dans le troisième âge deux strates. Ce que j'appelle les jeunes vieux, c'est-à-dire des gens qui ont entre 60 et 74 ou 75 ans, qui sont en pleine forme, qui pourraient théoriquement pour la plupart continuer à travailler, qui dépensent, qui voyagent, qui sont un élément moteur de la société. Et les vieux, au-delà d'une certaine limite qu'on ne peut pas fixer nettement à 75 ou 76 ans, au-delà d'une certaine limite, c'est la population dépendante. Et si bien que le problème, les jeunes vieux, n'est-ce pas, dépensent, mais ils ne contribuent plus déjà à l'équilibre des comptes. Songez que dans les années 60, vous deviez avoir un retraité pour 4 ou 5 personnes au travail. On est arrivé dans les années 80 à un retraité pour 3 personnes au travail.
On est à 1 pour 2 aujourd'hui.
On y va. On marche. Et attendez, c'est pas seulement ça, c'est que les retraites dans les années 60 étaient misérables. Il fallait voir les manifestations. De pauvres vieux qui demandaient du pain et une retraite minimale. Les retraites ont été très fortement révalorisées. Et surtout du fait de l'augmentation de l'espérance de vie, la durée de vie en retraite est passée en gros de 15 à 27 ans. Et les retraites sont payées pendant beaucoup plus longtemps, ce qui évidemment compromet le mécanisme des retraites. Ça n'est pas tenable, ce phénomène n'est pas tenable à la fin. Nous n'avons vu que le commencement, mais comme l'espérance de vie continue à augmenter d'environ 2 ou 3 mois par an, et en particulier après 60 ans, le déséquilibre ne peut que croître et le problème va devenir aigu. Et la première réforme, la réforme Fillon, va s'avérer très rapidement insuffisante.
À tout de suite.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Le vieillissement dans le monde, c'est un rapport du CNRS, tout va bien, apparemment, mais en réalité, c'est un fauteuil roulant européen qui est en train de dévaler l'abîme. On en parle avec Jacques Dupaquier, membre de l'Institut, et Alain Parent, chercheur à l'INED, démographe, et qui a notamment créé le laboratoire de démographie historique à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, on a défini le vieillissement, est-ce que le sujet n'était pas un peu trop vaste, le vieillissement dans le monde? Il fallait à ce point ouvrir l'étude à l'ensemble de la planète? Parce que j'imagine que les situations sont tellement contrastées.
Très contrastées. En réalité, je n'ai pas eu la prétention du tout de traiter de l'ensemble du problème, mais de fournir des données chiffrées pour qu'on puisse discuter. Et alors ces données chiffrées, je les ai puisées dans une publication de l'Organisation des Nations Unies, en anglais, qui s'appelle World Population Aging, qui donne pour chaque pays au monde les pyramides des âges, les âges moyens, la proportion de la population de plus de 60, de 70, de 80 ans, etc. Et le poids relatif que représentent les retraités par rapport aux personnes en âge d'activité. Tous ces chiffres ne sont pas fiables. Ces chiffres sont donnés pour 1950. Là, ils sont fiables pour les pays développés. 1975, pareil. 2000, 2005, on sait à peu près à quoi s'en tenir. encore qu'il ne faut pas toujours prendre les chiffres pour parole d'évangile, mais les Nations Unies donnent aussi des prévisions pour 2025 et 2050, et c'est ça qui fait froid dans le dos. Or, en réalité, les prévisions démographiques pour les personnes âgées sont plus fiables que les autres projections démographiques parce que ces personnes sont déjà nées. Toutes les personnes qui auront 50 ans et plus en 2050 sont déjà nées. On les connaît. On connaît l'étape de mortalité. On sait, on a évidemment un petit intervalle de confiance, mais on peut prévoir à 3 ou 4% près le nombre d'habitants de chaque d'habitants âgés de chaque pays au milieu du siècle. C'est ça qu'on a donné et c'est ça qui fait froid dans le dos aussi.
Alors allez-y.
C'est ça qui fait froid dans le dos parce que à quoi aboutit-on ? Nous étions déjà pour l'espérance de vie en 1950 dans le monde on était à 46 ans et demi. En 1975, on approchait de 60 ans. Et on prévoit, on est actuellement à 66 ans de durée de vie moyenne et d'après les prévisions, on devrait arriver à 76 ans à peu près au milieu du siècle. Mais avec des disparités formidables entre les pays riches et les pays pauvres, ces disparités, nous avons dans les pays les moins développés, on était... autrefois de 25 ans en 1950 et on a atteint maintenant 66. Dans les pays développés, on a augmenté aussi, mais l'écart entre pays riches et pays pauvres s'est réduit de moitié. Il est de 11 ans.
Donc autrement dit, on vit plus vieux dans les pays pauvres.
Oui, sauf ceux qui sont atteints par le sida, en particulier en Afrique du Sud.
Voilà.
Le Malawi est un des pays où l'espérance de vie est la plus basse.
Alors là, c'est un facteur tiers qui vient brouiller la statistique, si je puis dire.
Oui.
Mais dans l'ensemble...
Ils sont même pas à 40 ans au Malawi. Alors que le Japon, la durée moyenne de la vie est de 80 ans et demi. Les Japonais avaient quelques centaines de centenaires en 1950. D'après les prévisions des Nations Unies, ils en auront 900 000 au milieu de ce siècle. 900 000 centenaires. Alors évidemment, ceci pose des problèmes considérables et au point de vue économique et au point de vue de la santé, mais je laisse le soin...
C'est une situation totalement inédite déjà, qui ne s'est pas produite
inédite
dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on le sait ça ? C'est-à-dire que l'espérance de vie actuelle représente un facteur... c'est-à-dire que non seulement il y a plus de gens qui vivent longtemps, mais on vit plus longtemps déjà.
On passe plus de temps dans les âges élevés.
Voilà.
On arrive plus nombreux dans les âges élevés,
et
proportionnellement
à
un nombre de nouveau-nés identique. Et quand on est arrivé dans les âges élevés, alors quel que soit l'âge, encore une fois, 50, 60, 80, 80 ans, ou même 100 ans, on y passe plus de temps. On peut y séjourner plus longtemps. Donc ça contribue à gonfler le sommet de la pyramide des âges, à gonfler les effectifs de personnes âgées. Mais là, on n'est pas dans le vieillissement démographique, on est dans la vieillesse. Le vieillissement démographique, c'est le rapport d'une population âgée à une population totale. Et dans ces mécanismes-là, l'allongement de la durée de vie, c'est un facteur qui produit du vieillissement démographique et qui est primordial pour un pays comme la France depuis 1950. Le vrai facteur de vieillissement démographique en France depuis 1950, c'est l'allongement de la durée de vie. Parce que comme on a eu une relance pendant une trentaine d'années, on va dire 28 ans, de la fécondité, on a amené à la base de la pyramide des âges, un nombre de nouveau-nés très importants qui sont encore en train de monter dans les âges. Ils remontent le long de la pyramide des âges, mais ils sont encore dans les âges jeunes, entre 30 et 50 ans, entre 30 et 60 ans. Mais le troisième facteur, qui est la mobilité internationale, à ce jeu-là, la France a plutôt gagné de ses échanges migratoires avec le reste du monde. Et ce sont plutôt des individus plus jeunes que la moyenne. Donc, des trois facteurs de la dynamique clé de la dynamique démographique, à savoir la fécondité, la mortalité et la mobilité des personnes. Il y en a deux qui ont joué dans le sens d'un rajeunissement globalement sur les 50 dernières années. Et il y en a un seul qui a joué dans le sens du vieillissement, c'est l'allongement de la durée de vie. Mais c'est un phénomène qui est une caractéristique qui ne concerne que les pays les plus avancés. Parce qu'il faut que l'espérance de vie soit déjà, vous le rappeliez tout à l'heure, très élevée pour que tout progrès supplémentaire ou tout gain supplémentaire se traduise par ou produise du vieillissement démographique. Aujourd'hui, les réserves de survie, et de mortalité aussi, mais de survie, sont dans les âges élevés. Quand Jacques Dupaquet dit que l'on gagne 2 mois d'espérance de vie à la naissance chaque année civile, sur ces deux mois, ce qui est relativement énorme, sur ces 2 mois, il y en a pratiquement 60 à 70% qui résultent de l'allongement de la durée de vie ou de la baisse des risques de décéder à chaque âge au-delà de 60 ans. C'est parce qu'il n'y a pratiquement plus rien à gagner dans les âges jeunes, en termes de mortalité infantile, c'est-à-dire la probabilité pour un nouveau-né de ne pas fêter son premier anniversaire, on est à 3, 4 pour 1000 en France. Autrement dit, on est pratiquement à zéro. Donc il y a encore des réserves, des gains, si vous voulez, contre la mort dans les âges jeunes, notamment côté masculin, autour de 20 ans, 25 ans.
Mais il y a un seuil incompressible. Hein.
Mais on tend vers l'incompressible. Donc les gains futurs, ils sont dans les âges élevés. C'est en maintenant encore plus longtemps des individus qui sont déjà arrivés dans les âges élevés qu'on va accroître l'espérance de vie. Il ne faut pas oublier que ça rejoint votre question, est-ce que c'était utile de travailler sur le vieillissement dans le monde ? La réponse me paraît fondamentalement oui. Parce que le facteur premier du vieillissement démographique, ce que l'on oublie trop facilement, et notamment ceux qui ont tendance à évacuer le phénomène du vieillissement démographique, c'est la baisse de la fécondité. Si les générations ne se renouvellent pas autant qu'avant dans un pays ou dans une population, ce pays, cette population, s'engage sur la voie du vieillissement démographique. Plus la fécondité baisse, et plus le vieillissement que l'on va obtenir à une certaine horizon temporel va être élevé. Vous citiez, Jacques Dupaquet, l'exemple du Japon. Au Japon, en 1947, c'était un des pays les plus jeunes du monde. Il y avait moins de 5% de personnes âgées de 65 ans ou plus. En 1947, les femmes japonaises avaient plus de 4 enfants en moyenne. 10 ans plus tard, en 1957, les femmes japonaises avaient en moyenne moins de 2 enfants. Pour passer de plus de 4 enfants en moyenne par femme à moins de 2 enfants en moyenne par femme en France, il a fallu 180 ans. Au Japon, 10 ans. Pour passer en France d'une proportion de 65 ans ou plus de 5% à une proportion, comme aujourd'hui, de 16%, de soit personne âgée de 65 ans ou plus, il a fallu pratiquement 2 siècles en France. Le Japon a fait ça en 50 ans. Plus la fécondité baisse rapidement et plus le vieillissement est à horizon temporel, rapproché et intense. D'où tous les pays en voie de développement, et c'est très bien rendu dans le dossier, tous les pays en voie de développement ont une fécondité qui s'effondre. La Tunisie était à plus de 7 enfants en moyenne par femme, simplement dans les années 50-60. La Tunisie est aujourd'hui à peine à 2 enfants en moyenne par femme, c'est-à-dire qu'elle ne renouvelle plus ses générations. La question fondamentale du vieillissement se pose plus, alors c'est peut-être un paradoxe, dans les pays en développement qui sont aujourd'hui très jeunes que dans les pays les plus développés qui sont aujourd'hui plus vieillis. Parce qu'en termes de vieillissement démographique, c'est dans les pays en développement que l'augmentation du vieillissement va être la plus intense. Et ce sont des pays qui n'ont pas accumulé de réserves, contrairement à nous. Alors nous, on gâche nos réserves, eux, ils ne les ont pas encore constituées.
Alain Parent, vous nous avez dit que le vieillissement dans les pays pauvres, enfin les pays pauvres, les pays émergents, les pays en développement, ce qu'on voudra, est une réalité et que, par conséquent, ça contrecarre l'idée que ces pays en voie de développement, est une démographie explosive.
Alors, c'est pas encore... Il y a deux choses. C'est pas encore une réalité en termes de vieillissement. La proportion des personnes âgées dans le total est relativement faible. Simplement, il y a un devenir de vieillissement démographique très important à horizon des 50 prochaines années parce que leur fécondité s'est effondrée depuis une trentaine d'années. Par contre, la fécondité de chaque femme diminue, mais la population en âge de féminine, en âge de procréer, a très fortement augmenté dans les décennies 50, 60 et 70. Donc, chaque femme a en moyenne moins d'enfants, mais le nombre de femmes capables d'en avoir moins a considérablement augmenté. Donc, on a encore une croissance de la population mondiale de quelques 80 millions, 70 à 80 millions, peu importe la précision, c'est l'ordre de grandeur qui compte, de nouveaux terriens chaque année.
C'est le cas. Alors, si l'on cite par exemple la Chine et l'Inde, la Chine qui aujourd'hui est à 1,4 milliard peut-être, l'Inde qui a dépassé le milliard, 1,2 milliard, on est bien dans des logiques quand même de démographie en pleine santé, en pleine explosion.
Les deux pays sont très différents.
Alors, c'est deux titans, puisqu'ils seront à peu près à 1,5 milliard, plus ou moins 200 ou 300 millions, ça va dépendre des hypothèses, en 2050. mais ce sont des pays qui, en 2050, dont les populations n'auront plus rien à voir avec les populations d'aujourd'hui. Je parle en masse et je parle en termes de structure, parce que la part des très âgés va être très élevée en Chine. De l'ordre de 20%, 22% des Chinois âgés.
Déjà en Chine, on est à 20% de la population
de
personnes âgées.
Non, en 2050. En 2050. Aujourd'hui, on est déjà aux environs de 10-11%.
Michel Cartier prévoit 300 millions de Chinois âgés. Ouais. Autrement dit, vous voyez, le vieillissement, il y a un vieillissement par le haut qui tient à l'augmentation de l'espérance de vie, surtout de l'espérance de vie après 60 ans, et il y a un vieillissement par le bas qui vient de la chute de la natalité, de la réduction en nombre et en proportion des jeunes, et dans nos pays occidentaux, les deux phénomènes ont joué. Tandis que dans les autres pays, en particulier dans ceux du tiers-monde, on a eu jusqu'à une époque récente une natalité formidable, si bien qu'il y a actuellement une différence de près du double entre l'âge médian, c'est-à-dire l'âge qui sépare la population en deux parties égales, dans les pays développés et dans les autres. Chez nous, dans les pays développés, l'âge médian est de 38 ans. C'est-à-dire la moitié de la population a moins de 38 ans, la moitié plus de 38. Dans les autres pays, l'âge médian est de 19 ans, c'est-à-dire exactement la moitié. Alors à la longue, évidemment, ils vont gagner, mais chez nous, le vieillissement est pour aujourd'hui, dans les pays en transition pour demain, et dans les pays les plus pauvres, je pense en particulier à l'Afrique noire, il est pour après-demain. Le meilleur moyen de suivre la progression du vieillissement, c'est de voir quelle est la proportion dans une population de personnes âgées de 65 ans et plus. Chez nous, en ce moment, c'est 15%. Mais nous nous dirigeons allègrement vers 20 ou 25%. Dans les pays pauvres, c'est, pour le moment, c'est moins de 5%. Alors ces pays vont connaître le vieillissement, mais ils vont le connaître plus tard. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ma conclusion « Nous vieillirons, mais pas tous ensemble ».
Alain Parent.
Oui, juste pour mentionner que le problème, enfin par ses conséquences, le vieillissement démographique, il va avoir des conséquences très sévères dans les pays développés. Mais c'est ça, à mon avis, dans les pays en développement, qu'elles vont être encore plus sévères. Dans la mesure où c'est dans ces pays, les jeunes sont nés nombreux parce qu'ils représentaient les bâtons de vieillesse de leurs parents. Leurs parents qui sont souvent restés en zone rurale quand les jeunes sont partis vers les zones urbaines où ils ne trouvent pas de travail, même si leur niveau de diplôme a considérablement augmenté. Donc, il n'y a pas aujourd'hui constitution de réserve suffisante pour s'occuper des personnes, des parents de ces jeunes, et il n'y en aura pas demain, parce que demain, les jeunes vont vieillir et vont être très nombreux dans des pays qui n'auront pas pu accumuler des réserves suffisantes pour qu'on puisse prélever pour mettre en œuvre des systèmes de protection sociale. Donc, dans la mesure, on parle de mondialisation, il y a des effets boomerang. Ce qui se passe et qui va concerner à l'horizon des 30 ou 40 prochaines années, les 5/6 de l'humanité ne peuvent pas laisser indifférent ce qui va se passer dans le 6e restant de l'humanité, qui, elle, avait des réserves, aurait pu montrer des bonnes voies à suivre, des bonnes pratiques, comme on dit, et qui ne l'a pas fait, qui est en train de griller ou de manger, pardon, ses marges de manœuvre.
Par une politique du court terme.
Par une politique au fil de l'eau, on va dire.
Comment vivront, dans 40 ans, comment vivront les vieux Indiens, les vieux Chinois, les vieux Africains? Sur quoi ça va reposer? Non, je crois que le vieillissement, ça nous concerne, nous, beaucoup, parce que chez nous, c'est très avancé. Mais ça va être une catastrophe dans les pays du tiers-monde.
C'est-à-dire que, pardon, nous, ça nous concerne parce que ça va nous toucher directement au porte-monnaie, que ce soit les retraités, que ce soit les actifs, parce qu'il faudra bien financer les retraites, et d'autres dépenses, comme la santé, mais d'autres aspects. Chez eux, ça ne touche pas encore au porte-monnaie, mais ça va toucher directement à la survie, encore une fois, des ruraux vieillissants dans les pays en développement et des urbains non employés aujourd'hui, voire demain, à l'horizon des 10-30 prochaines années.
On y revient dans un instant.
La médiathèque de Canal Academy, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme? Vous avez apprécié cette émission? Vous aimeriez réentendre cet académicien? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Académie. Le téléchargement est gratuit.
Le vieillissement dans le monde, c'est le thème de cet éclairage. C'est un rapport publié par le CNRS, un rapport d'une soixantaine de pages, qui fait le point sur cette situation qui, bien sûr, concerne à la fois les Européens et les Français en particulier, devant les questions que nous avons déjà abordées, la question des retraites en particulier, celle de la santé. Mais les conséquences, on va y venir, avec donc Jacques Dupaquier, membre de l'Institut, et Alain Parent, chercheur à l'INED, qui est conseiller scientifique également de Futurible International. On a parlé tout à l'heure de la Chine et de l'Inde. Est-ce qu'on peut faire un point rapide en quoi les structures démographiques de ces deux pays sont très différentes? Alain Parent.
La Chine est en avance, si je puis dire, dans la transition démographique. C'est-à-dire qu'après moult essais infructueux, la politique de réduction de la fécondité en Chine a fini par porter ses fruits, si je puis dire, en tout cas dans l'optique de la politique de l'époque.
La population a quand même doublé.
Mais la fécondité a considérablement chuté. On était à plus de 4 enfants, on est à moins de 2 enfants aujourd'hui. Donc, alors avec quelques excès qui sont abondamment soulignés, du genre les filles qui sont soit pas déclarées dans les statistiques, soit les garçons sont sélectionnés plus que les filles. On insiste beaucoup chez nous sur ces aspects-là. Il y en a un qui est fondamental, c'est la chute de la fécondité qui va entraîner un vieillissement très rapide. Dans un pays qui donc en est à peu près à une trentaine d'années de fécondité relativement basse. Alors que l'Inde a une fécondité qui est quand même sensiblement 60% supérieure à celle de la Chine encore aujourd'hui, même si elle est en baisse. La baisse est lente, alors que la baisse est violente en Chine, la baisse est lente en Inde. Donc le vieillissement démographique va avoir des répercussions, va avoir une évolution lente ou relativement lente en Inde, alors qu'il va avoir une évolution brutale en Chine. La preuve en est, c'est que quels que soient les scénarios en 2005, enfin les scénarios, c'est un vocable un peu usurpé, quelles que soient les variantes des projections démographiques, l'Inde est plus peuplée en 2050 que la Chine. C'est ça qui fait la différence. C'est la fécondité qui est sensiblement plus élevée aujourd'hui.
Si on continue,
en Chine.
Alain Parent et Jacques Dupaquier, si on continue notre tour du monde, notre géographie de la démographie et du vieillissement, il y a une très forte disparité évidemment avec l'Afrique, là par exemple.
Oui, encore qu'il faille distinguer deux Afriques. Il y a l'Afrique du Nord, qui a des fécondités voisines du niveau de remplacement, voire légèrement inférieur au niveau de remplacement, oui, compte tenu de la mortalité résiduelle. Et puis l'Afrique subsaharienne, qui, elle, a encore des fécondités très élevées. Alors, qui a une mortalité, Jacques Dupaquier évoquait le cas du sida, une mortalité qui est encore relativement précoce. On meurt plus précocement en Afrique subsaharienne que partout ailleurs dans le monde. Balkans, peut-être un peu mis à part, et encore, on n'est plus dans les années 90. Fondamentalement, c'est un continent qui va connaître une croissance démographique très importante et qui sera encore en 2050 le continent le plus jeune de la planète, contrairement à l'Amérique latine, contrairement à l'Asie.
L'Amérique du Sud, justement, l'Amérique latine.
Alors l'Amérique latine aussi, c'est un peu pareil, c'est qu'il y a un pays qui domine l'Amérique latine en masse, aussi bien en superficie qu'en pouvoir économique qu'en population, c'est le Brésil. Donc c'est lui qui imprime quand même la démographie brésilienne, impacte fortement sur la démographie de l'Amérique latine et Caraïbes, puisqu'on regroupe cet ensemble.
C'est la locomotive démographique de l'Amérique du Sud. La fécondité a commencé à baisser au Brésil, mais vous devez tenir compte de l'inertie des phénomènes démographiques. Un virage démographique, ça se négocie sur 50 ans. Et par conséquent, la population du Brésil va continuer à augmenter, bien que la fécondité ait baissé, et ceci pendant très longtemps. Et le Brésil a commencé à vieillir et il en prend conscience, mais ce n'est rien à côté de ce que verront les nouvelles générations.
Oui, puis on a un problème de calendrier sur les agendas politiques. Le vieillissement démographique, pour avoir essayé de sensibiliser des pays d'Afrique du Nord, voire des pays d'Amérique latine, à cette question du vieillissement démographique depuis une trentaine d'années que je travaille à l'INED, c'est très difficile parce qu'il y a toujours des priorités plus urgentes, si je puis dire. La Chine, vous parliez de la Chine, la politique du un enfant par famille qui a échoué, puisqu'on est à 2 enfants, peu importe, elle a quand même réussi puisqu'elle a divisé par 2 la fécondité, elle a été voulue parce qu'il y avait la famine et que c'était 20 millions de morts de façon directe. En Afrique du Nord, c'est pareil. En Amérique latine, ça a été pareil.
Mais il y a une constante dans la prévoyance, là. de tous les gouvernements.
C'est-à-dire qu'on s'adapte aux priorités. La priorité, ce n'est pas tellement le vieillissement démographique quand on décide d'un enfant par famille, d'une politique de réduire de façon très violente la fécondité. C'est qu'on a une autre urgence, plus prioritaire, si je puis dire, que la structure par âge. C'est la faim, c'est le développement, c'est éventuellement l'environnement et le souci écologique pour certains autres. Mais fondamentalement, c'est le vieillissement démographique, c'est une variable résultante. Le problème, il est là. C'est que c'est une conséquence de deux tendances qui sont plutôt jugées heureuses. La première, c'est on peut maîtriser sa fécondité, ou on trouve les moyens de maîtriser sa fécondité. Et la deuxième, c'est on vit de plus en plus longtemps. Ce sont deux tendances jugées heureuses, mais qui ont pour conséquence un vieillissement démographique. Et on accepte les deux tendances heureuses, mais on occulte la question du vieillissement et de ses conséquences.
Alors j'aimerais bien qu'on vienne à présent, justement puisque vous avez prononcé le mot, sur la question des conséquences. Vous nous avez dit tout à l'heure que les répercussions seraient encore plus terribles pour les pays du Sud et qui ne disposent pas des ressources dont les pays du Nord disposent. Mais est-ce que nous avons pris les moyens nécessaires pour affronter ce choc démographique? Vous avez prononcé le mot d'insuffisant tout à l'heure pour la réforme Fillon en 2003. On en est à quoi? 0,005% de ce qu'il faudrait faire pour mesurer? C'est très difficile, évidemment, et c'est plus une boutade. Mais est-ce que vous estimez que là-dessus, on ferme le couvercle, qu'on pose des mains dessus et qu'on évite bien de poser la question?
Vous comprenez, à une époque où il y avait relativement peu de retraités et qu'ils étaient mal payés, on a augmenté les retraites, ce qui était une mesure sociale extrêmement juste, mais le poids des retraites est devenu maintenant considérable. On a probablement donné trop d'avantages. Dans un foyer de retraités, le niveau de vie est en moyenne supérieur d'environ 10% au niveau de vie d'un foyer d'actifs. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il n'y a que les trois remèdes qu'énumérait jadis Denis Kessler. Ou bien on augmente le poids des cotisations d'une manière considérable. Il disait qu'il faudrait augmenter de 45%. Ou bien on ampute les retraites, ce qui politiquement est impossible. Ou bien on augmente par des voies directes ou indirectes l'âge de départ en retraite, et je pense que c'est de ce côté-là qu'on trouvera la solution en ce qui concerne nos problèmes des retraites. Et puis leur penser aussi que maintenant la plupart des femmes ont travaillé, ce qui n'était pas le cas dans les générations anciennes, elles ont donc elles aussi des droits à la retraite. Le problème des retraites reste extrêmement grave. Il n'a pas été résolu par la réforme Fillon, il n'a été résolu que partiellement, surtout que se pose le problème des régimes spéciaux.
Mais alors, vu la constatation qui est la vôtre, que feriez-vous? Quel tour de vis ou quelle solution?
Écoutez, si je peux me permettre une solution, je crois que même si on maintient l'âge de départ en retraite à 60 ans, il faut donner la possibilité aux gens qui veulent travailler plus de travailler davantage. D'autant plus que comme on entre très tard dans la vie active, beaucoup de générations n'auront pas les 40 ans nécessaires pour avoir une retraite à temps plein. Il faut leur laisser la possibilité de prolonger leur activité. Autrement dit, l'âge de la retraite, ça devrait être fonction de l'état physiologique dans lequel on est,
des droits qu'on a acquis.
Donc, la retraite à la carte, bien que je ne sois pas économiste, il me semble que c'est la seule solution pour les retraites.
Alain Parent ?
Peut-être un petit bémol, c'est qu'il était indiscutable qu'il fallait améliorer les pensions de vieillesse quand on l'a fait. C'était on avait quand même à peu près à 90% de personnes âgées de 65 ans en plus le nombre de bénéficiaires potentiels du minimum vieillesse, c'est-à-dire du niveau de survie. Donc il fallait incontestablement améliorer le niveau des pensions servies. Simplement, on pouvait le corréler à une obligation de travailler plus longtemps. Autrement dit, d'entrée de jeu, puisqu'on était sur un train d'allongement à la durée de vie, qu'on savait que les générations, même au début des années 60, quand Larocque a rendu son rapport, on savait quand même qu'on était en plein baby-boom depuis quand même déjà 14 ans, en 1960. Donc on pouvait aménager, tout en améliorant le sort des personnes âgées, le sort des pensions de retraite des hommes comme des femmes, déjà penser au futur et allonger la durée de cotisation. Ça, c'était quelque chose que l'on avait pu faire. De la même façon, quand on crée l'APA, alors pardon, l'allocation perte d'autonomie, c'est très bien. Sauf que quand on la crée, les bénéficiaires sont ceux qui sont nés pendant la Première Guerre mondiale, 440 000 naissances en moyenne, donc 90 ans plus tard ou 85 ans plus tard, le nombre de survivants est relativement faible. Sauf qu'après après la guerre, à partir de 1919, 1920 et suivantes, on a eu une remontée très forte de la fécondité par rapport à ce niveau de 440 000, enfin de la natalité par rapport à ce niveau de 440 000 naissances, à peu près 660 000. Donc on savait en la créant qu'on ouvrait la boîte des dépenses. C'est, on avait une allocation budgétivore. À l'époque, on était quelques-uns à avoir proposé de créer un fonds de réserve pour subvenir aux besoins futurs. Alors, vous avez vu comment on a réglé la question avec un lundi de Pentecôte. Sauf qu'aujourd'hui, c'est 4 lundis de Pentecôte et que dans le calendrier, il n'y en a toujours que 1. Donc, comment on va faire ? C'est cette question-là. C'est-à-dire, quand on crée, il n'est pas question de revenir sur des avantages, mais quand on les crée, pensons aux conséquences à long terme, aux évolutions à long terme. Replaçons une mesure dans son contexte, ce qu'on on ne fait pas.
Mais le système tel qu'il existe aujourd'hui, jusqu'à quand peut-il tenir, si tant est qu'il tienne encore ?
Bah, si tant est, oui, puisque j'ai cru comprendre que la France avait vivait très largement au-dessus des moyens, de ses moyens, avec plus de 1000 milliards d'euros d'endettement cumulé. Donc on a quand même un problème.
On ne peut pas cumuler
une quinzaine de jours.
C'est anti-économique. C'est anti-économique. Donc ça veut dire qu'effectivement, maintenant, malheureusement, on a trouvé pour la question de la retraite, fondamentalement, comme remède, miracle, d'allonger la durée de cotisation. Pour faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps. La question, c'est que ceux pour lesquels on a créé la mesure, les 45 ans en plus, ils n'ont pas été placés dans cette dynamique de long terme de devoir un jour travailler plus longtemps. On a abaissé l'âge de la retraite, on a créé une cinquième, voire une sixième de semaine de congés payés, et en plus, on a abaissé la durée hebdomadaire à 35 heures. Et là, maintenant, on leur dit, au nouveau, vous oubliez tout ça, on repart de zéro, parce que pour vous, c'est plus jouable. Il faut travailler plus longtemps, et de plus en plus longtemps, avec des systèmes qui ne sont pas adaptés. Par exemple, la réforme de Fillon, bien évidemment qu'on va y revenir. Si vous manquez une année de cotisation, vous avez une décote dite de 3 points, de 3%. Bon. Si vous travaillez une année de plus, vous avez une surcote de 3%. Est-ce que c'est à ce tarif-là suffisamment incitatif ? La réponse est non. Mmh. Alors, on peut proposer du 5%. Mais on ne peut pas avoir, si vous voulez, en même temps, dire qu'il faut que les seniors travaillent plus longtemps et ne pas avoir prévu que s'ils n'avaient pas été formés, s'ils travaillaient dans des entreprises qui se projetaient pas simplement à 10 ou 15 ans devant elles pour anticiper sur leurs besoins et leurs compétences futures de main-d'œuvre, on allait avoir des problèmes rédhibitoires de ce type-là. Donc là, on est face à un déficit, je dirais, d'analyse initiale. C'est-à-dire, on replace pas suffisamment une tendance dans son contexte, dans son environnement. Je poursuis juste sur une question. J'ai parlé du maintien à domicile ou de l'aide en faveur des personnes âgées dépendantes. On dit que c'est un gisement d'emploi. Oui. Sauf que dans la plupart du monde rural, la quasi-totalité du monde rural dont on nous dit qu'il se repeuple surtout aux environs des grandes villes, mais dans la campagne française profonde, il continue à se dépeupler. Comment on peut imaginer de faire du service de maintien à domicile ou de soutien à domicile, ça serait plus adapté, si les jeunes qui doivent remplir demain ou tenir demain les emplois d'auxiliaire de vie ne sont plus là? Vous avez des cantons entiers où il y a les trois quarts de la population qui ont 65 ans ou plus. Alors les derniers Mohicans, qu'est-ce qu'on en fait ? On les laisse mourir sur place ou alors on les relocalise vers les villes. Mais il y a quelque chose. Dans les zones urbaines où il y a eu un apport de population très important, y compris de population âgée d'ailleurs, que ce soit des Anglais ou d'autres, on a fait monter les prix de l'immobilier notamment ont tellement monté que les jeunes natifs, où les jeunes qui sont arrivés là sont obligés de partir. Demain, qui s'occupera des personnes âgées ?
C'est le cas dans mon Vexin.
Qui s'occupera des personnes âgées ?
Un tiers de déficit.
C'est le cas dans le Vexin. Vous avez alors un carottage,
oui,
là, un carottage démographique.
Entre 18 et 40 ans, il y a un vrai déficit, il y a un creux démographique. Et alors, effectivement, le problème de la population âgée, c'est une population aussi. La santé se détériore, surtout sur ceux que j'appelle les vieux-vieux. Ils coûtent de plus en plus cher. Désormais, le coût de la santé, toutes choses égales, hein, les gens n'étant pas, n'ayant pas plus de remèdes, de consultants, pas davantage, augmentera de 1% par an pour des raisons purement démographiques. Si bien que le coût de la santé va atteindre un niveau incroyable qui tendra à se rapprocher du coût des retraites. Voilà le problème.
Un niveau qui aujourd'hui est minoré dans toutes les études, parce que très souvent on arrête les projections à 2020. Or la génération qui est née en 46, ses 80 ans, elle l'est faite en 2026, ses 85 ans en 2031. Donc quand on fait des projections,
ça change tout.
Après le choc du baby-boom, on a quand même une autre dimension que quand on l'arrête avant. Bon, ça, c'est un premier moyen, disons, de limiter l'ampleur des besoins de financement. Le deuxième, c'est que on prend des courbes de remboursement selon l'âge qui datent de 5 ans ou de 6 ans, alors qu'il y a un autre facteur d'augmentation des dépenses et du coût de la santé en relation à le vieillissement demain, c'est que quel que soit l'âge, on a tendance à se soigner ou en tout cas à demander des remboursements, à avoir des remboursements de santé beaucoup plus élevés. Et dans les âges au-delà de 60 ans, c'est une croissance exponentielle, c'est-à-dire que chaque courbe tend à être supérieure à l'ancienne, à la plus ancienne.
Nous avons actuellement 80 000 personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Il y a 4 000 places d'asile de jour pour les victimes de l'Alzheimer.
Et toutes choses égales par ailleurs, on est dans une situation semblable pour d'autres, pour toutes les questions qui ont trait à l'accueil des personnes âgées dans les hospices.
Oui, mais on est face à des besoins, encore une fois, qui aujourd'hui sont immenses, avec des capacités qui sont limitées. Et ça, on le savait.
Rien n'a été anticipé.
Je veux dire, on subit les événements. C'est pour ça que je parlais de politique au fil de l'eau tout à l'heure. On a pris l'habitude de subir les événements, sauf qu'on ne pourra pas les subir indéfiniment. Il y a un moment où la machine va s'arrêter, va se bloquer. Et la question du vieillissement démographique est une question qui n'est pas abordée sous tous ses angles. Alors qu'on devrait avoir des états, non pas généraux de la vieillesse, mais des états généraux du vieillissement démographique, j'observe, en tout cas j'écoute, mais peut-être que j'ai mal écouté, mais je n'ai entendu aucun des candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle ou en voie de se déclarer, parler de la question du vieillissement démographique. Alors que c'est une question, la question du vieillissement démographique interfère sur toutes les autres questions. Elle interfère sur l'emploi, elle interfère sur les politiques publiques, quelles qu'elles soient, y compris d'aménagement du territoire, politique familiale, politique de l'emploi, politique de formation initiale et continue, politique de la vieillesse, politique de la santé. Qu'il y a des questions très, très fondamentales du type éthique, philosophique, qui vont finir par se poser. Cette question-là reste occultée. Elle est occultée.
On peut même dire que les questions liées à l'euthanasie sont presque reliées au vieillissement démographique aussi.
Oui, mais comme par hasard,
est-ce qu'on en parlerait autant si la question du vieillissement ne venait pas à se poser ?
Est-ce qu'on en a beaucoup parlé d'ailleurs ?
On n'ose pas.
Est-ce qu'on nous a saisi sur la question de la bioéthique ?
On n'ose pas trop en parler ouvertement.
On n'en parle pas trop ouvertement, mais c'est une question quand même
qui commence à tarauder
un peu le monde politique et ceux qui réfléchissent au devenir public.
Il y a un autre aspect dont il faut parler, c'est le vieillissement du corps électoral. Le vieillissement du corps électoral est tout à fait considérable. Il a augmenté d'une dizaine d'années et c'est pas fini.
Un point, si vous le voulez bien, puisqu'il nous reste quelques minutes avant de conclure cette émission, il y a notre voisin allemand. Yves-Marie Leland a écrit là-dessus une enquête qui est plutôt catastrophiste et qui montre que l'Allemagne serait dans un état de non-retour et qui illustre même, semble-t-il, qu'il illustre par la démographie la croissance, le fait que l'Allemagne soit dans une croissance quasiment zéro. Alors, ce qui est peut-être contrecarré par les derniers chiffres, mais qu'est-ce que vous pensez du fait que notre croissance est liée aussi aux besoins d'une partie de la population et que plus le nombre de personnes âgées augmente, plus les besoins changent et plus la croissance prend un autre visage au moins.
Oui, on n'achète plus les mêmes choses à tous les âges. Alfred Sauvy, il y a très très longtemps, disait que l'Allemagne était un hôpital de vieillards en construction.
Oui, mais alors, je pense que la question de l'évolution démographique, elle affecte à peu près tous les pays européens. C'est-à-dire, le vieillissement démographique, tous les pays du monde y sont plus ou moins confrontés, mais le baby-boom, bon, même avec des variantes, l'allongement de la durée de vie, même avec des variantes, l'immigration, même avec des variantes, on est à peu près concerné, en tout cas, on le subit ou on le vit de la même manière. La mondialisation, le nouveau paradigme économico-financier, on le subit de la même manière. J'observe quand même qu'on a des croissances économiques avec des contenus en emploi qui sont sensiblement différents, avec des politiques vieillesse qui sont sensiblement différents. Alors vous parlez de l'Allemagne qui est un pays très vieilli, qui n'a pas de politique familiale pour des raisons historiques, quoique on commence à en parler. Et avec une fécondité qui est très nettement inférieure à la nôtre, de l'ordre de 0,5-0,6 enfants en moyenne par femme, ce qui est quand même très important, et depuis très longtemps. Et pourtant, on a une économie qui, justement, les derniers chiffres tendent à dire qu'on peut se réorganiser.
Si on en juge par leur commerce extérieur.
Si on en juge par le commerce extérieur, ça ne veut pas dire que le vieillissement ne pose pas des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'endettement. Ça ne veut pas dire qu'il y a un changement de la consommation, qu'il y a des besoins d'investissement particuliers. Certes, il y a des prélèvements qui sont aussi opérés de façon très particulière. Nous, on a, en termes de prélèvement de financement de la protection sociale, on a un percheron de cotisation sociale et une alouette de fiscalité. Des pays comme la Suède ou les pays du Nord, qui prélèvent plus que nous, ne passent pas pour des pays moins riches que nous. Et avec des croissances économiques, avec des contenus en emploi moins importants que nous. Nous, sur 100 personnes âgées de 15 à 64 ans, on en a 63 au travail. Dans ces pays-là, tous nos principaux partenaires, entre guillemets, concurrence, c'est plus le mot plus juste, on est plutôt aux environs de 70 à 75. C'est plus facile de répartir un surcroît de dépenses de protection sociale sur 75 têtes ou sur 75 revenus que sur 60.
Donc c'est plus une question de choix des politiques publiques, de modèles économiques.
Il y a des marges de manœuvre, comment sont-elles utilisées? Et on s'aperçoit, le critère du voisin, je pense qu'il faut l'utiliser, pas simplement pour regarder ceux qui vont plus mal que nous, mais ceux aussi qui vont mieux que nous. D'ailleurs, on y est invité par l'Europe, puisque c'est l'absent de ce débat. La politique européenne nous invite à aller voir chez le voisin quelles sont les pratiques pour essayer de voir si on ne pourrait pas importer, non pas la mesure, parce qu'on ne peut pas importer une mesure sans le système qui va avec, mais voir comment on pourrait adapter le système pour éventuellement mettre en valeur la mesure en question. Mais on est assez myope dans ce domaine.
Eh bien justement, alors pour corriger notre vision, nous reporterons au vieillissement dans le monde, justement. C'est ce rapport que vous avez eu l'amabilité de bien vouloir commenter pour Canal Academy. C'est la revue Rayonnement du CNRS, un rapport que l'on peut se procurer, c'est le numéro 42, octobre 2006, qui concerne cette question liée à la démographie. Alain Parent, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes démographe, chercheur à l'INED, conseiller scientifique de Futurible International. Jacques Dupaquier, merci. Membre de l'Institut, démographe, historien. À bientôt.
Merci.
Au revoir.